This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Mongolie, à Bruxelles et à Berlin, ce sera ailleurs dans le monde. Le journal de l'international signé Olivier Poujade. Les mardis numériques, cette semaine en direct de Washington, où Frédéric Carbone surfera sur le web pour nous. 18h55, l'édito de politique gastronomique. Anthony Bélanger nous donnera sa recette du buffle au curry. Pas du bœuf, hein, du buffle. Mais tout de suite, Brésil, Argentine, Amérique latine.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Olivier Poujade nous en parlait hier dans le journal de l'International. L'Argentine est prise dans une présidentielle nettement plus compliquée que prévu. Une fois de plus, les sondages avaient très mal mesuré le rapport de force entre le péroniste Daniel Scioli et le conservateur Mauricio Macri dans un mouchoir de poche au soir du premier tour, pris donc maintenant dans une campagne serrée pour le second. Pendant ce temps, au Brésil, la crise économique et la crise politique en sont au même point. Catastrophique, pour le dire simplement. La présidente Dilma Rousseff se débattant dans des problèmes de corruption avec au-dessus de la tête une possible procédure de destitution. Zoom pour commencer ce soir sur le Brésil, l'Argentine puis l'Amérique latine avec Alain Rouquier que je salue. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Universitaire et diplomate, ambassadeur de France au Brésil de 2000 à 2003, aujourd'hui président de la Maison de l'Amérique latine à Paris. Lise Ferré, notre consoeur, correspondante à Paris de la chaîne brésilienne TV Globo, est également au micro de France Inter. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Olivier le disait hier soir, Olivier Poujade, l'économie relie très fortement les deux pays, Argentine et Brésil. 50% des exportations argentines partent vers le Brésil. La crise d'un pays rejaillit sur l'autre, nécessairement, Alain Rouquier, on peut le dire comme ça?
Bien sûr, nécessairement. L'Argentine est le deuxième marché du Brésil. Et le Brésil est le premier marché de l'Argentine. Donc, ensuite, il y a des chaînes de valeur, comme on dit dans le langage économique, argentino-brésilienne et brésilienne-argentine. On fait une partie d'une automobile en Argentine, une autre partie au Brésil. Et c'est un marché qui, en dépit de difficultés, parce que le fameux Mercosur ne fonctionne pas aussi bien qu'on pourrait s'y attendre, il y a eu du protectionnisme ici ou là. Il y a eu, non pas du démantèlement des protections, mais au contraire de la reconstruction de protection en Argentine, mais le Brésil n'a jamais été un pays très ouvert non plus. Mais là, on a un problème avec des pays qui ont en plus des exportations qui sont concurrentes. Le soja, par exemple, l'Argentine est la république du soja, mais le Brésil est un très gros exportateur de soja vers la Chine. Et quand le prix du soja, la tonne de soja baisse, c'est mauvais pour les deux pays. Ajoutons à cela un problème de confiance dans les deux pays, donc pas d'investissement, une baisse du commerce. D'un côté, parce qu'il y a cette crise dont vous avez parlé, la corruption, etc. etc.
On va y venir.
Et puis, la crise de fin des 12 années de la famille Kirchner en Argentine avec le premier tour d'élection présidentielle de dimanche.
Il va y avoir un mois de campagne passionnante à suivre. Regardons maintenant, Lise Ferré, du côté de votre pays, du côté du Brésil. J'ai l'impression que le pouvoir de Dilma Rousseff s'est évaporé.
Tout à fait. Je pense que M. Rouquier a très bien dit le mot, c'est confiance. Il n'y a plus du tout de confiance. Dilma Rousseff se retrouve protagoniste de sa propre tragédie. C'est-à-dire qu'il y a un manque il y a un mécontentement très généralisé au Brésil. Et qui touche pas seulement Dilma, mais toute la classe politique brésilienne.
C'est une crise sans précédent hein, dans l'histoire récente du Brésil.
Tout à fait. Elle est au plus bas des sondages, au plus bas des cotes de popularité depuis 1992. Rappelons qu'à cette année, il y a eu la destitution d'un président qui s'appelle Fernando Collor de Mello, pour l'affaire de corruption. Et elle est encore plus basse. Lui, il avait 10% quand même. Elle a plus, moins de 8%.
Alors, les derniers chiffres d'appui, de soutien au gouvernement du Brésil, taux d'approbation 8,8%, c'est une dépêche de l'AFP qui est tombée il y a une heure environ, 8,8% seulement, un très léger mieux toutefois par rapport à juillet, où c'était 7,7%. Alors dites-nous Alain Rouquier, en France on dit que les institutions de la 5e République protègent le président. Quelles sont un vrai bouclier et quelles peuvent encaisser une impopularité même absolue. Ça n'est pas le cas au Brésil.
Ce n'est pas le cas au Brésil parce que les pouvoirs du président sont très limités pour deux raisons. D'abord, la Constitution de 1988 donne d'énormes pouvoirs au Congrès, au Sénat et à la Chambre des députés. Et ensuite, c'est un pays fédéral dans lequel le fédéralisme est respecté et donne aussi des pouvoirs aux gouverneurs et aux municipalités. C'est-à-dire que la présidence a des pouvoirs relativement limités, ne peut pas, comme le président de la Ve République, prendre des décisions sans consulter les notables, les grands seigneurs du Congrès qui généralement font payer leur soutien par des subventions à leur État, par ce phénomène de notabilité fait que le système des partis est un peu faible dans de grands partis, le parti des travailleurs qui est un vrai parti, le PSDB à droite qui est le parti de Fernando Henrique Cardoso qui est un vrai parti, et puis le reste ce sont des fédérations de notables qui défendent non seulement leur terroir, mais leurs intérêts personnels de manière à ce qu'ils soient indéracinables.
Lise Ferré, est-ce qu'il faut croire, est-ce qu'on peut croire, ou c'est un scénario de science-fiction, à une procédure de destitution de Dilma Rousseff ou d'impeachment, comme on dit en anglais ?
Oui, on peut envisager cela, mais c'est assez improbable. Parce que
C'est possible, c'est ça, hein. Sur le papier, c'est possible,
voilà. Mais c'est assez improbable parce que déjà, il faut apporter des preuves solides comme quoi elle serait mêlée à des affaires de corruption pendant sa gestion actuellement. Et ça, c'est très difficile de prouver. Elle est accusée d'irresponsabilité fiscale et de financement illégal de campagne. Mais tout ça, c'est 2014. Si c'est prouvé en 2015 qu'il y a eu des preuves assez consistantes, cela pourrait affaiblir encore plus si cela est possible. Parce qu'elle est déjà...
Quels sont les scénarios sur la table, Alain Rouquier ?
Ben, les scénarios sur la table, c'est d'abord trouver des preuves. C'est d'abord de trouver qu'il y a des raisons légales, juridiques, de lancer une procédure d'impeachment. Ça, c'est le plus difficile. Oui. Le deuxième problème, c'est que qui jette la première pierre ? Quand les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont impliqués dans les affaires de corruption de Petrobras, c'est bien difficile. Hein, c'est bien difficile. Alors, ce qu'il y a de certains, et ça va dans le sens de ce qui pourrait être le salut de Mme Dilma Rousseff, c'est que la justice fonctionne. Il n'y a pas d'impunité. On met en prison qui on doit mettre en prison, on arrête, on fait des procès, on condamne. Et ça, c'est quand même très nouveau à l'Amérique latine et au Brésil.
Et ça peut remonter jusqu'en haut.
Ça peut remonter jusqu'en haut, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on arrive à l'impeachment. Parce que dans l'impeachment, il y a aussi, en quelque sorte, l'idée que Mme Dilma Rousseff a été élue de très peu et que ceux qui n'ont pas réussi à se faire élire voudraient bien un troisième tour. Et ça, c'est politique. Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'on peut dire que le pays est paralysé, puis on va venir à l'Argentine ? Est-ce qu'on peut dire que le Brésil, aujourd'hui, est paralysé par la crise économique, par la crise individuelle, celle de Dilma Rousseff, et par la crise politique, du coup ?
Oui, tout à fait. Je pense que le pays est paralysé et il existe aussi cette paralysie, entre guillemets, elle donne deux blocs qui sont confrontés. Et le troisième qui est celui plus général où tout le monde subit la crise. Je suis revenue du Brésil il y a 4 jours et l'ambiance de crise est assez palpable. Il y a un ralentissement dans tous les secteurs de l'économie brésilienne. Mais au-delà de ça, il y a le manque de crédibilité du gouvernement et surtout de Dilma. Donc, ce qui fait qu'il fallait que le pays puisse avoir une unification autour d'un projet, mais cela n'est pas envisageable, puisque dans toute l'histoire brésilienne, c'est la présidente qui a le moins de popularité auprès de la population. Mmh. C'est assez inédit.
Mais c'est l'impasse totale, donc, hein, Alain Rouquier.
C'est l'impasse totale.
Je dirais, on ne voit pas comment s'en sortir.
Que ce manque de crédibilité affecte l'ensemble de la classe politique. Mmh. Tous les partis et toute la classe politique. Donc, on ne voit pas la solution.
Alors, retournons-nous maintenant du côté de l'Argentine. Comment analysez-vous, Alain Rouquier, la poussée conservatrice, puisque ça a été ça, hein, quand même, ce premier tour.
Oui.
Les sondages, comme d'habitude, disaient très nette avance pour le candidat des Kirchner qui va y arriver sans aucun problème. Bon, bah non, hein, vraiment pas.
Je n'ai jamais cru que ça allait être 40% ou 45% avec 10% de différence. Parce que le candidat Scioli est un candidat entravé. C'est un candidat qui n'a jamais eu les coudées franches. C'est pour ça qu'il s'est présenté comme le candidat du changement et de la continuité. C'est l'un ou l'autre. Mmh. Changement et continuité, c'est un peu difficile.
C'est en France qu'on avait inventé le changement dans la continuité.
Oui, oui.
Hein. ou l'inverse, je ne sais plus.
L'indépendance dans l'interdépendance.
Oui, voilà, c'est
Edgar
ça.
Edgar Faure était très fort pour ça.
Voilà, ouais.
Non, mais là, c'est l'Argentine, c'est un peu différent. Et disons que Mme Kirchner, après 12 années de péronisme Kirchner, avec des politiques sociales qui les ont rendues populaires. Madame Kirchner quitte le pouvoir avec une popularité de environ 40%. C'est pour ça qu'on a pensé que Scioli aurait 40%. Mmh. Bon, mais elle a voulu préserver son pouvoir dans l'avenir. Donc elle a, d'une part, nommé un candidat à la vice-présidence qui est quelqu'un de très proche d'elle, qui n'est pas particulièrement populaire. Et ça, c'est peut-être pas très grave, mais le plus grave, c'est d'avoir présenté un de ses collaborateurs les plus proches et peut-être pas les plus capables politiquement dans la province de Buenos Aires. Mmh. Et Scioli n'a pas eu les 40% parce qu'il a perdu la province de Buenos Aires. Son Aníbal Fernández, qui était donc ex-premier ministre de Cristina Fernández, qui est un homme comme Cristina Fernández, c'est-à-dire très clivant, très polarisant, brutal, un peu sectaire, s'est fait battre par une jeune femme de 42 ans que personne ne connaissait, du parti conservateur de Macri. Et quand on perd la province de Buenos Aires, c'est grave, parce que c'est un tiers des électeurs et un tiers du PIB argentin. Donc deuxième tour.
Grosse turbulence, hein, quand même.
Deuxième tour.
Deuxième tour. En Amérique latine, hein, oui. Deuxième tour.
Deuxième tour. C'est que si vous additionnez les voix de Scioli et de Sergio Massa, qui sont tous les deux péronistes, tous les deux ex-kirchneristes, vous avez 58%. Alors que feront les 21% d'électeurs de Massa? Est-ce qu'ils sont d'opposition aux 12 ans qui viennent de s'écouler? Et donc, ne veulent plus entendre parler de Kirchner, ni de ses successeurs, etc. Ou est-ce qu'ils vont se dire, mais on est péroniste, on ne peut pas voter pour un conservateur qui est un milliardaire, qui a acheté un club de football, etc., etc. Personne ne le sait. Moi, ce que je pense, c'est que s'ils n'ont pas voté au premier tour pour l'opposition, c'est parce qu'ils avaient de bonnes raisons de voter pour un péroniste qui n'avait aucune chance d'être au deuxième tour.
On a consacré de très nombreuses émissions d'Un jour dans le monde à l'Amérique latine. Et c'est aussi, toutes ces émissions finissent par former une chronique de la crise de la gauche en Amérique latine. Est-ce que vous partagez cette analyse, Lise Ferré? C'est une certaine gauche sud-américaine là qui, est prise dans les turbulences de l'histoire.
Oui.
C'est le cas au Brésil, hein?
Oui, tout à fait. Je pense, vous rendez compte que le Brésil est passé de la puissance émergente solide pendant les années Lula à un pays comme à la mélancolie déjà en premier moment en 2011 et puis là c'est la catastrophe complète. Donc c'est vrai que en Amérique latine, le Brésil, bon, c'est un pays s'il est en crise, ça se voit. Et là, c'est vraiment la crise la plus importante que le pays a eue depuis de nombreuses années. Donc, et ça s'ajoute aussi, il y a beaucoup d'éléments qui s'ajoutent à la crise. Normalement, celui qui est, à mon sens, le plus important, c'est que toute la classe politique brésilienne est touchée par des affaires de corruption. Il n'y a pas un membre politique de gauche, de droite ou quoi que ce soit qui peut lever la voix et que peut prouver comme quoi il n'est pas mêlé dans les affaires de corruption. Que ça soit Petrobras ou autre.
Alain, oui.
Ça c'est quand même très important parce que il existe un manque de confiance. Donc, passer une succession pour, et qui derrière? Qui? Ça c'est très compliqué.
Alain Rouquier, comment voyez-vous la crise des gauches sud-américaines?
Écoutez, il y a plusieurs gauches. On dirait qu'il y a la gauche chaviste, et puis les gauches plus classiques, comme Mme Bachelet, le Parti Socialiste, et sa coalition au Chili, ou le Brésil, le présidentialisme de coalition. Mais les situations sont très diverses, même au sein de ce qu'on pourrait dire les mouvements progressistes de type chaviste. On a Venezuela qui est dans une situation épouvantable, numéro un pour l'inflation dans le monde, un système de taux de change qui est totalement aberrant, entre 1 et 100. Enfin bon, c'est pas la peine d'épiloguer, tout le monde sait ça. Mais on a des pays qui sont de ce réseau des bolivariens, comme la Bolivie, qui auront une bonne croissance autour de 4%. Donc le Chili va être en croissance autour de 3%. Donc on peut pas dire que c'est la gauche. Bon, bien sûr, la gauche préfère avoir des exportations dynamiques pour pouvoir redistribuer. Mais il y a des gauches qui redistribuent et gèrent bien la redistribution, et d'autres qui la gèrent moins bien. Oui. Disons que le Chili et la Bolivie sont des exemples de pays qui sont gérés par des gauches tout à fait différentes, mais qui s'en sortent assez bien.
L'alternance, c'est une bonne nouvelle pour ce continent?
L'alternance, c'est la preuve
que la démocratie fonctionne bien. Enfin.
Eh bien, la démocratie fonctionne bien.
Donc il peut y avoir des crises idéologiques profondes et en même temps l'alternance qui est le signe que la démocratie...
Je crois que ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, c'est d'abord qu'il y a des élections, qu'elles se passent bien. Il y a eu 5 élections dimanche, y compris Haïti, premier tour des élections présidentielles, deuxième tour au Guatemala, et ces élections se passent bien, il y a des alternances, et aussi il y a dans un certain nombre de pays la fin de l'impunité. Au Guatemala, les élections ont donné des résultats un peu curieux, avec un comédien qui... inconnu...
Anthony Bélanger nous en parlait hier.
Qui devient le président. Oui. Mais enfin, le président sortant est en prison pour corruption. Donc, l'impunité, c'est fini dans beaucoup de pays d'Amérique latine.
Lise Ferré, dernier mot.
Pensons au mot corruption. Je suis assez sceptique au niveau de l'alternance au Brésil. Je pense que ça ne peut pas fonctionner. Parce que je suis assez pessimiste vis-à-vis du Brésil à cet égard, parce que vu que toute la classe politique est mêlée dans des affaires pas nettes, il n'y a pas une alternance possible, à mon sens, qui soit à la hauteur. Là, c'est impossible.
Allez, un petit mot rapide, Alain Rouquier, de conclusion.
Beaucoup plus optimiste que Lise. Je crois que cette crise permet de voir que le système politique doit être réformé de fond en comble, qu'on doit réformer la loi électorale et qu'on doit réformer l'ensemble du fonctionnement des différents pouvoirs. Je crois que c'est la dernière chance et tout le monde va s'en apercevoir.
Ouais. Alain Rouquier, merci, président de la Maison d'Amérique latine à Paris. Merci à notre consoeur Lise Ferré, correspondante à Paris de la chaîne brésilienne TV Globo. Il est 18h35, vous écoutez Inter. Olivier Poujade à suivre pour Ailleurs dans le monde.
Quoi, 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 quoi. What have you done to me? Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ya. The music plays with me. I never meant to walk your way. And then one day love walked my way. And now I'm all la-la-la-la-la. Pa-ra-pa-pa-pa. Qua-qua-qua-qua-qua. Qua-qua-qua-qua-qua. Qua-qua-qua-qua-qua-qua-qua. What is the meaning of pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ya?
thought I'd get the call or that I'd ever dance at all. But now I'm all la 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 la, ba da ba ba ba, qua 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 qua, oh, je ne sais quoi. The truth in life is what will be, will always be. So don't go forcing love, just wait and then you'll see. Qua 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 qua. A whim, a woe, a way now. Pa da pa 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 pa. A whim, a woe, stay now. I never thought I'd ever see another singing just like me. La 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 la, pa da pa pa pa, qua 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 qua. Je ne sais quoi. The truth in life is what will be. Will always be. So don't go forcing love, just wait and then you'll see. Qua, 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 qua. A whim, a woe, a way now. Ba da ba 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 ba. A whim, a woe, stay now. I never thought I'd ever see a setting sun across the sea. I never thought in all my dreams I'd meet a dreamer such as he. I never thought I'd ever see another singing just like me. La 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 la, ba da ba ba ba.
Ben voilà, ça s'appelle comme ça, quoi quoi quoi, de Sarah McKenzie, 18h38 sur Inter.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir Nicolas.
Nous partons ce soir pour la Mongolie et sa capitale Oulan-Bator, la plus froide et la plus carbonée du monde.
Le genre d'endroit, Nicolas, où les experts de la COP21 s'arracheraient les cheveux. La Mongolie, 3 millions d'habitants, la moitié de la population regroupée effectivement à Oulan-Bator, jusqu'à moins 40 degrés à l'extérieur et sous les yourtes, un seul système de chauffage, le poêle à charbon. Nous partons retrouver notre reporter Philippe Reltien sur le point de plonger dans la fumée noire d'Oulan-Bator.
Sur la montagne pelée, où vaquent des troupeaux, il est écrit « Allons planter des arbres ». Au pied, il y a 140 000 tuyaux de cheminées de yourtes, dont celle de Dogo. Il fait moins 5, la première neige vient de tomber, les enfants vont rentrer de l'école, c'est l'heure d'allumer le poêle après la corvée de charbon. Les blocs de lignite, arrivés en vrac de la mine, sont cassés à la hache dans la rue et remplis dans des sacs. Tunga, de l'ONG mongole Mapping.
Un gros sac de charbon, c'est genre 1,50€. Forcément, ça détruit la santé de tout le monde dans la ville. Ça s'arrête pas. On peut pas dire aux gens qui habitent là, oh, c'est pas écologique, c'est pas ça, mais faut comprendre qu'ils ont pas de choix. Il faut quand même continuer à vivre.
C'est le diable, ça.
Oui, on peut dire ça.
Maintenant, Dogo prépare le thé au lait. Il a 23 petits-enfants, dont 2 scolarisés dans la capitale. Un peu de contreplaqué, une poignée de charbon, du papier journal, une allumette, et ça sent déjà l'odeur d'Oulan-Bator. Rangé dans un coin, il y a un chauffage d'appoint, offert à des milliers de gens comme elle par la Banque mondiale. Ce fourneau en fonte n'a pas été pensé pour chauffer l'eau. Dogo pose sa bassine sur le feu, verse l'eau du puits, ajoute le lait, une poignée de thé, une pincée de gros sel.
Alors ça, c'est le fourneau
du projet.
Du projet L'air pur.
L'air pur.
Je mets facilement mon chaudron ici, en enlevant le couvercle. Et ici, c'est pas possible de mettre le chaudron. Ici, on peut pas chauffer le lait.
Un sac de charbon donne 5 heures de chaleur par nuit, multiplié par 140 000 yourtes, et vous avez le smog du matin qui colle aux vêtements avec un taux de concentration de PM2.5 qui peut dépasser 1800 par mètre cube d'air. Ceux qui acceptent le risque partent même le dimanche à la mine remplir 2 camionnettes de charbon pour passer l'hiver. Il se chauffe pour 250 euros. Le prix du charbon n'arrête pas de baisser avec la crise de la sidérurgie en Chine. Quentin Moreau a choisi de mettre sa famille au vert.
C'est mesuré. Et quand on est dedans, c'est comme ça sentait dans les villes minières du Nord, sauf que les concentrations sont monstrueuses. Ma famille, nous avons fui parce que je ne voulais pas prendre la responsabilité de laisser un premier enfant et puis maintenant un deuxième habiter en centre-ville, certainement en hiver. Je vois mes amis qui ont des enfants en bas âge, des bronchites chroniques, des infections des voies respiratoires qui traînent pendant des mois. La situation est grave et il n'y a pas de solution à court terme. On a 1 million d'habitants qui habitent dans des quartiers de yourtes et qui se chauffent au charbon. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Il y a 4 centrales thermiques au charbon dans Oulan-Bator pour alimenter le réseau du chauffage central bâti à l'ère soviétique. Une 5e centrale thermique dite de cogénération, 25 fois moins polluante, sera construite par le français Engie. Le contrat a été signé avant la décision de ne plus financer les centrales au charbon.
Premier problème, comment protéger les habitants de cet épais nuage de CO2 ?
Très peu d'enfants arrivent à pied à la crèche du quartier Chingerti. Ils descendent de voitures d'occasion importées du Japon dans un nuage de vapeur diesel parfumée au CO2. Pour contrer l'effet de la pollution, à l'école numéro 16, on leur sert en mousse un cocktail de jus de pomme à manger à la petite cuillère dans un gobelet en plastique, cocktail baptisé O2 comme oxygène. Nergish préfère un contrepoison bien connu, le lait.
Vous avez confiance dans le lait mongol ?
Le lait de l'usine nationale est le meilleur pour moi.
On habite dans la fumée.
Oh là là, quelle fumée ! Quelle fumée, quel gasoil !
Comment vous vous protégez chez vous ?
En changeant les moteurs. Quelle pollution !
Deuxième question pour les habitants d'Oulan-Bator, la ville a-t-elle besoin d'une 5e centrale au charbon ?
Pour l'économiste blogueur indépendant Jargal, sortir du piège du charbon, c'est d'abord sortir les habitants de leur yourte.
Je suggère de remplacer nos yourtes par des appartements chauffés au chauffage normal, mais sans brûler de charbon.
Ce n'est pas si simple. Le plan d'urbanisme actuel ne peut offrir que 40 mètres carrés d'appartements à des familles nomades habituées aux grands espaces. La 5e centrale au charbon est-elle inéluctable ? L'idée qu'elle ne se fasse pas heurte la logique de l'économiste, Jargal.
Vous suggérez quoi ? Qu'on laisse les gens mourir de froid ? Celles qu'on a ne satisfont que 50% de la demande. On achète le reste à la Russie. Alors oui, on aura une 5e centrale ici au charbon et ensuite on aura moins d'émissions.
À la conférence de Paris sur le climat, la Mongolie annoncera un objectif de réduction en CO2 de 14% en 2030. À l'avenir, si la nouvelle banque d'infrastructures créée par la Chine finance un réseau de distribution qui passe par la Mongolie, elle pourra vendre l'électricité de son parc éolien, le plus grand du monde, à la Corée ou au Japon. Le vent de la steppe produit trop d'électricité à un coût trop élevé pour répondre aux besoins de la Mongolie, a estimé le gouvernement. La compagnie qui l'a produit est en grande difficulté.
Reportage dans le smog carboné d'Oulan-Bator, signé Philippe Reltian. Et direction Bruxelles maintenant, Olivier, où les 28 pays de l'Union européenne sont sur le point de disséquer nos téléphones portables.
Oui, ce n'est qu'une première réunion de travail, Nicolas, mais le but est vraiment de plonger dans les entrailles de nos portables pour savoir d'où viennent précisément tous les composants de l'étain, du tungstène, de l'or, mais surtout du tantal. Bonsoir, Quentin Dickinson.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Alors on connaissait, Quentin, les diamants du sang qui ont conduit à la mise en place du processus de Kimberley. On découvre aujourd'hui les minerais du sang.
Oui, chaque année, plus de 200 millions de téléphones portables sont vendus dans l'Union européenne. C'est dire si les métaux, qui ne pèsent que quelques grammes dans chaque appareil, se chiffrent en réalité en milliers de tonnes. Et les minerais, d'où sont produits les métaux les plus demandés par les fabricants de matériel électronique, sont parfois extraits dans des pays sûrs, comme l'Australie ou encore le Brésil, mais bien souvent aussi ont pour origine des zones de non-droit dans l'est de la République démocratique du Congo ou au Rwanda. Or, les rivalités pour la mainmise sur ces ressources minières expliquent et entretiennent les conflits ethniques qui n'en finissent pas d'embraser la région. On estime d'ailleurs à au moins 5 millions le nombre de morts au cours des 25 dernières années et à un nombre équivalent les personnes déplacées. Après les États-Unis, l'Union européenne cherche donc à interdire aux fabricants d'utiliser ces minerais de sang. Le Parlement européen s'est déjà prononcé sur la proposition de directive de la Commission européenne et la réunion d'aujourd'hui visait à commencer à harmoniser les positions des pays membres. L'eurodéputé vert français Yannick Jadot mène campagne pour la traçabilité des composants électroniques.
Au Conseil, aujourd'hui, on a des positions qui ne sont pas totalement établies. Heureusement, notamment les pays nordiques, toujours, poussent plutôt à l'établissement de règles qui concernent l'ensemble de la filière. C'est-à-dire qu'en responsabilisant, y compris les importateurs, on s'assure que les fonderies, les raffineries qui sont en lien direct avec ces minerais de sang soient responsabilisées. La France ne semble pas avoir totalement défini sa position. Et puis, malheureusement, on a aujourd'hui à l'est de l'Europe des pays qui considèrent que ce n'est pas forcément un sujet pour l'Europe, même si ça génère des massacres en Afrique.
Il s'agit donc pour les 28 gouvernements de parler d'une seule voix sur la question. Lorsque ce sera chose faite, pourra alors s'engager ce qu'on appelle ici le trilogue, c'est-à-dire la prise de décision commune entre les États, la Commission européenne et le Parlement européen. Mais ce ne sera sans doute pas avant le début de l'année prochaine.
Merci Quentin, vous étiez en direct de Bruxelles.
Allez, on change de registre avec cette révélation, Olivier. Non, le rôle du bad guy ne revient pas toujours à un acteur français chez les anglo-saxons.
Les Allemands, Nicolas, sont semble-t-il très bien placés pour incarner le mal. Avant-première de Spectre, le nouveau James Bond hier soir à Londres, toujours Daniel Craig dans le rôle de 007 et face à lui, Christoph Waltz alias Franz Oberhauser, le super méchant vilain qui veut du mal à tout le monde. Cyril Sauvageau, bonsoir. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir.
Ce dernier épisode de la saga de James Bond renoue visiblement avec une véritable tradition.
Une tradition, oui, qui remonte au tout premier James Bond. Les Allemands ont toujours fait de parfaits méchants. Ça faisait un moment que c'était plus arrivé, hein, ces dernières années. 007 a bataillé avec un Français, Mathieu Amalric, ou encore un Espagnol, Javier Bardem, mais le rôle du bad guy ne pouvait pas échapper longtemps à Christoph Waltz, lui qui crevait l'écran dans Inglourious Basterds de Tarantino.
Welcome, James.
You came across me so many times, yet you never saw me.
What took you so long?
Pour Christoph Waltz, la nationalité du méchant importe peu. L'essentiel, dit-il, c'est qu'il ait un accent étranger. L'acteur reconnaît malgré tout que les Anglais ont toujours aimé donner le mauvais rôle aux Allemands. Et c'est vrai, quand on remonte la filmographie de James Bond, on dénombre une bonne vingtaine de personnages allemands. Hommes de main, tortionnaires, femmes traîtresses, mais aussi certains des plus fameux ennemis de Bond, comme l'inoubliable Goldfinger en 64 et son engin de torture au laser.
Do you expect me to talk?
No, Mr. Bond, I expect you to die. There is nothing you can talk to me about that I don't already know.
Pourquoi tant de méchants teutons? Eh bien sans doute parce que les romans de Ian Fleming en sont truffés. Des livres écrits juste après la guerre et très marqués par son propre combat contre le nazisme, la tradition est restée dans les films James Bond. Mais depuis quelque temps, les Allemands ne sont plus présentés, c'est une nouveauté, comme des caricatures. Dans Casino Royale, il y avait plusieurs acteurs allemands au casting, mais ils ne jouaient pas spécifiquement des personnages germaniques. La preuve peut-être que quelque chose change, et surtout que les producteurs ont à cœur de ne pas heurter le public allemand, un des marchés les plus important d'Europe avec près de 8 millions d'entrées pour Skyfall, le précédent James Bond.
Notre agent très spécial infiltré à Berlin, Cyril Sauvageau.
Allez, pour terminer, un rapide détour par Cuba, Olivier, où les investisseurs du monde entier lorgnent sur la petite perle des Caraïbes.
Tout le monde est sur la brèche en attendant la levée de l'embargo américain, Nicolas. On apprend aujourd'hui que le créateur haute couture Chanel tiendra son premier défilé à La Havane. Ce sera au printemps prochain. Événement dirigé par l'incontournable Karl Lagerfeld. Aucun doute, Nicolas, une autre révolution est en marche aujourd'hui à Cuba.
Mira que ya viene la revolución. Para que se asustan será pa' mejor. Es el pueblo entero el que ya está gritando, ¡viva la revolución! Si el pobre pide justicia, es resentido social, lo alzó un agitador de tipo profesional. Cuidado, son extremistas. No nos podrán engañar, ya dejamos de creer en el viejito Pascual. Mira que ya viene la revolución, para que se asustan será pa' mejor. Es el pueblo entero el que ya está gritando. ¡Viva la revolución!
Ante todos los problemas,
soldado, su sensibilidad frente a la injusticia, el pueblo es tu superior.
Está mal.
Por eso juntos haremos triunfar la revolución. Que vengan los...
Roberto Rivera, viva la revolution. Et à demain, Olivier Poujade.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et comme tous les mardis, balade sur le continent numérique. Cette semaine, quelques nouvelles du web américain. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Correspondant à Washington. Alors pour les amateurs de sport, et c'est une première, il fallait cette semaine, Frédéric, être devant son écran d'ordinateur et pas de télé. Hein.
Ouais, absolument. Et même si rien ne ressemble plus à un commentaire sportif que notre commentaire sportif, celui que vous allez entendre, là, à l'instant, a un caractère historique.
Touchdown!
Voilà, touchdown, ça veut dire que c'est du football américain. Ça se passe effectivement sur Yahoo dimanche et c'est la première fois qu'un géant de l'internet se lance sur ce marché de la retransmission sportive. 20 millions déboursés pour avoir l'exclusivité d'une rencontre entre les Bills de Buffalo et les Tigers de Jacksonville. Les spécialistes vous diront que c'était l'affiche la moins spectaculaire de la journée, mais l'effet curiosité a joué. Yahoo revendique 30 millions de connexions. La moitié des gens sont restés pendant toute la rencontre, près de 3 heures quand même. Vrai pari pour Yahoo. Paraît que la qualité de l'image n'était pas parfaite avant le début du match. Ensuite, c'était mieux. Les annonceurs, en tout cas, étaient là. D'autant que le spot de pub avait été bradé, paraît-il, 100 000 dollars au lieu de 200 000.
Ouais, enfin, c'est quand même pas mal. Hein. Parlez-nous maintenant.
C'est bradé, paraît-il, pour la télé.
Parlez-nous quand même du dernier réseau social en date. Twitter hein, n'est pas menacé, mais ça commence à faire son petit chemin. Hein.
Ouais, alors ça s'appelle The List App. Et l'idée, elle est toute bête. C'est de partager, comme sur Twitter, avec vos followers. Je parle pas très bien français en ce moment. Vos passions, donc partager les passions, les marottes, les obsessions, sous forme de liste. Les Américains adorent ça. Les 5 meilleurs livres pour le week-end de Thanksgiving. Les 10 meilleurs hot dogs dans les stades de baseball. Ça marche pour tout. Et deux semaines après le lancement, il y a déjà des dizaines de milliers de listeurs. Il est vrai que le créateur a une belle liste d'amis à Hollywood. C'est le producteur de la série The Office. Mmh. Du coup, vous avez les people qui se sont précipités. Je vous conseille d'aller voir du côté de Lena Dunham, l'héroïne de Girls, très influente sur les réseaux sociaux, qui se qualifie de list addict. Et intéressant aussi, tous les grands médias américains sont présents sur l'application. Si vous allez regarder en ce moment, vous verrez que NPR, la radio publique, recense sous le titre « Est-ce que cela va me tuer ?» la liste des questions que pose la dernière étude sur les viandes et le cancer. À vous de jouer maintenant, Nicolas, de mettre un jour dans le monde sur la liste. Tous les ingrédients sont réunis pour avoir le même genre de phénomène que, vous savez, les vidéos de chats sur YouTube.
Et Frédéric, en parlant de liste, le podcast le plus chic en ce moment à la radio américaine, c'est quoi ?
Le podcast, vous savez, c'est un artisanat très développé. On fait sa radio pour Internet dans son garage ou dans son villa d'Hollywood. Là, on est à la faculté de Chicago, le podcast élite, effectivement, de la campagne électorale américaine, puisque le producteur, c'est l'ancien conseiller le plus proche d'Obama, David Axelrod.
I'm here with Governor Romney.
Voilà, l'ambiance est jazzy, l'invité du jour c'est Mitt Romney, le rival d'Obama en 2008, on refait l'élection, conversation courtoise pendant une heure, de la politique haut de gamme, loin des saillies de la campagne actuelle, et si vous cherchez ce podcast, le nom c'est The X-Files, jeu de mots difficile à rendre en français, sur la série X-Files.
Merci Frédéric Carbone, en direct de Washington.
Le 18-20, Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
Et c'est l'heure de passer à table avec Anthony Bélanger. Bonsoir.
Bonsoir Mickaël. Bonsoir Nicole. Oui. Bonsoir à tous.
Vous pouvez m'appeler Mickaël, je l'adore. Hein. En Inde, Anthony, la cantine de la résidence du Premier ministre du Kerala servira dès demain du buffle au curry.
Oui, alors du buffle, hein, pas du bœuf. Vous verrez, ça a son importance. La question, c'est comment se fait-il que la carte de la cantine du Premier ministre du Kerala se retrouve au menu de France Inter ce soir ? Eh bien, la réponse est toute simple. Cette affaire de bœuf au curry passionne les Indiens depuis hier et encore aujourd'hui. Hier, la police indienne, sur dénonciation, a fouillé de fond en comble la cantine du Premier ministre à la recherche de bœuf. Sur dénonciation, ça veut dire qu'un groupe hindouiste radical s'est plaint que du bœuf soit servi dans ce bâtiment officiel. La police est donc allée vérifier si ces allégations étaient mensongères ou non.
Et il s'agissait purement d'intimidation.
Alors évidemment, la police ne dit rien de tel. Hein. Vous imaginez bien, elle prétend avoir fait preuve de prévention, histoire de rassurer les hindouistes radicaux qui sinon s'apprêtaient à saccager la résidence officielle. Mais l'explication est évidemment un peu courte, surtout quand on sait que ça fait plus de 2 mois que le pays est secoué d'incidents plus ou moins graves autour de cette histoire de viande de bœuf. Rappelez-vous, début septembre, dans l'Uttar Pradesh, un homme soupçonné d'en consommer a été battu à mort, oui, oui. Depuis, pas une semaine ne se passe sans que l'on recense des bagarres, y compris dans des parlements régionaux, ou des arrestations sur simple dénonciation. Donc, en fait, cette affaire de bœuf qui mêle religion et politique, eh bien, ne cesse de s'envenimer. Religion, parce que vous l'avez compris, hein, les seuls Indiens qui consomment de la viande de bœuf, eh bien, sont les chrétiens, bien sûr, mais aussi et surtout les musulmans, qui représentent entre 12 et 15% de la population. En clair, cette interdiction alimentaire est une sorte de discrimination, une façon de dire les mangeurs de bœuf ne sont pas vraiment indiens, un peu comme quand en France, vous savez, on insinue que ceux qui ne mangent pas du porc eh ben, ne seraient pas vraiment français.
Et l'aspect politique, Anthony, de cette discrimination bovine ?
Eh bien, il se trouve qu'en ce moment, c'est un parti hindouiste, le BJP, qui gouverne le pays. Un parti qui ne cesse de mettre en avant la grandeur de l'hindouisme national. Alors évidemment, le premier ministre indien, Narendra Modi, n'a jamais appelé au meurtre des mangeurs de bœuf musulmans, même s'il aime à souligner qu'il est végétarien. Il a simplement été un peu long à condamner les hindouistes radicaux, ce qui lui a d'ailleurs été longuement reproché. Et l'affaire de la cantine du Premier ministre du Kerala ne va rien arranger à cette ambiance extrêmement délétère qui, sous prétexte de protéger ou de faire respecter une loi, eh bien, désigne à la vindicte une population fragile et minoritaire, les musulmans indiens. En fait, c'est pas du curry, du bœuf au curry qui était servi au menu de la résidence officielle du premier ministre du Kerala, non, mais du buffle au curry, vous l'avez compris, il ne faut pas se tromper de bête à cornes en ce moment en Inde. Enfin, je rappelle à nos auditeurs que l'Inde est le premier exportateur au monde de viande de bœuf. C'est simple, l'Inde produit à elle seule un quart de la viande de bœuf exportée au monde. Hypocrisie quand il nous tient.
Merci Anthony Bélanger et à jeudi à 19h20. Le téléphone sonne, je vous le rappelle, portera sur les vaccins. Oui, les vaccins, cette piquante évidence de toute politique de santé publique qui se retrouve sous le coup d'une méfiance, voire d'une défiance nouvelle. Qu'est-ce qui les compose? Sont-ils vraiment nécessaires? Quels sont leurs effets secondaires? Leurs bénéfices sont-ils réels par rapport aux risques potentiels? Ces questions que personne ne se poser sont l'objet désormais de débats passionnels. Vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur Twitter avec le hashtag Telson. Nos deux invités seront tout à l'heure Bruno Lina, professeur de virologie, et Jean-Claude Salomon, médecin et biologiste. Le journal sur France Inter, le journal de Sébastien Paour, est à suivre dans un peu plus d'une minute.